Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois la procédure d'un recours devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul à la Cour. Dans cet épisode, on va discuter des divers modes de prévention et de règlement des différends, communément appelés les PARD. Les PARD, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour prévenir les conflits et aussi pour les régler avant d'avoir à entamer de longues et coûteuses procédures judiciaires. Parmi ces mécanismes, on peut penser à la négociation, à la médiation, à la conciliation et même à l'arbitrage. Pour mieux comprendre leur application, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Marianne Payette, avocate chez Stéphane Anger Avocat. À titre de médiatrice accréditée, elle détient une belle expérience dans le domaine de la prévention et le règlement des différends. Ensemble, on va échanger sur la façon de définir ces modes et les éléments qui les différencient et les situations qui pourraient mener à favoriser l'un ou l'autre de ces mécanismes plutôt que d'aller à la cour. Mais avant d'entamer ma discussion avec Maître Payette, je tenais à vous partager de petites mises en garde en lien avec les propos qui seront échangés au micro. Il est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de l'épisode et surtout, sachez que toutes les informations juridiques qui sont abordées reflètent le droit en vigueur au moment de l'enregistrement de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode et pour en savoir un peu plus sur les services qui sont offerts par Hoche Légal, nous vous invitons à aller consulter le site Internet de l'organisme hochelegal.ca. En plus de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram de l'organisme @hochelegal. Bonne écoute! Merci d'être avec nous, Marianne.
Merci beaucoup de m'inviter, c'est très apprécié.
Bien, c'est notre plaisir.
Je suis contente d'être là.
Normalement, ce qu'on fait au début, c'est qu'on demande de faire plus ample connaissance pour que nos auditeurs puis nos auditrices puissent apprendre un peu sur l'expertise de la personne qui est invitée. Mais là, si je demande ton expertise en mode de prévention et de règlement des différends, ça amène nécessairement la première question qui est: qu'est-ce que c'est les modes de prévention et de règlement des différends?
Oui. En fait, les modes de prévention puis de règlement des différends, c'est toutes les manières qu'on peut utiliser pour régler un litige qui est à l'extérieur des tribunaux judiciaires. Donc, c'est très varié. Il peut y avoir l'arbitrage, la conciliation, la négociation, la médiation. En fait, il y a autant de modes de prévention de règlement qu'il y a de litiges. Ça va toujours être adapté aux parties puis à comment est-ce qu'elles veulent le régler. C'est sûr qu'il y a certaines catégories où est-ce qu'on va se référer, là, évidemment. Mais justement, le principe, c'est que c'est très souple puis ça évite là, d'aller devant les tribunaux.
Donc, au final, à la place de se tourner vers un tribunal puis de demander à un tribunal de trancher, on choisit un peu, les personnes qui sont impliquées dans le conflit choisissent comment elles veulent le régler, si elles veulent aller chercher de l'aide ou c'est vraiment libre à elles?
Exactement. Puis, je vais faire du pont sur ce que tu viens de dire, c'est le choix. Donc, ce qui fonctionne avec les modes de prévention de règlement, c'est qu'il faut que ça vienne de la volonté des deux personnes qui sont ou de toutes les personnes qui sont impliquées dans le litige. Justement parce qu'on négocie un processus et parce qu'on négocie une manière de faire et également là, que souvent la solution au litige va venir des gens eux-mêmes, pas nécessairement, on va le voir plus tard, mais dans la majorité des façons de faire. Donc, effectivement, c'est un choix d'aller vers ces modes-là.
OK. Puis toi, depuis combien de temps tu travailles ou tu développes une expertise que tu as en ce moment là, en matière de prévention et de règlement des différends?
Oui, donc moi, ça va faire 2 ans que je suis médiatrice accréditée par le Barreau du Québec. J'ai fait la médiation en droit civil, commercial et du travail.
OK. Puis, qu'est-ce qui t'a attirée vers ça, vers ce type de pratique?
Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, moi, j'avais hésité avant d'aller en droit, j'avais hésité à aller en psychologie. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a attirée envers la médiation, parce que moi, c'est la médiation que je fais, c'est le côté très humain, très où est-ce qu'on interagit avec les gens, puis qu'on a un contact directement avec toutes les parties qui sont impliquées, pas avec seulement une partie. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble qui est beaucoup plus grande. Puis, je trouvais que c'était une manière différente d'aborder les litiges. Puis, ça m'intéressait beaucoup. Puis, je dois dire que ça me sert même dans mon rôle d'avocate. Ça me donne une nouvelle perspective, puis j'aime ça beaucoup.
Puis là, on parle beaucoup de les modes de prévention. C'est peu connu quand même. Les gens ont beaucoup le réflexe de se tourner vers le tribunal quand il y a un conflit. Oui. Mais il y a des intérêts à aller vers les modes de prévention et de règlement des différends.
Oui, absolument. En fait, il y en a beaucoup, mais un des intérêts principaux, c'est que les gens prennent le contrôle du règlement de leur litige. Donc, ils vont choisir, comme je disais, le mode, mais également, ils vont choisir la manière que ça va se dérouler, peu importe le mode qu'ils vont choisir. Également, les délais peuvent être beaucoup plus courts. C'est beaucoup plus facile là, de tenir une rencontre. Ça peut être informel, ça peut même... L'horaire peut être adaptable. Le lieu aussi, donc ça peut aussi être plus informel au niveau de la procédure. Ça peut enlever un stress parce que, évidemment, là, le tribunal, c'est pas... c'est quand on a un litige, généralement, en tout cas, pas toujours, là, mais en général. Donc, ça peut rendre le passage plus facile et aussi au niveau des coûts. C'est moins onéreux.
Puis, est-ce qu'il y a certains attraits au niveau de la confidentialité? Parce qu'on sait que quand on va au tribunal, c'est peut-être moins connu, mais c'est public. La plupart du temps, c'est vraiment public. Les gens peuvent y assister. Est-ce que c'est la même chose pour les modes de prévention et de règlement des différends, qu'on pourrait honnêtement appeler PRD, pour peut-être faire court, là, c'est leur petit nom, donc pour les PRD?
Mais en fait, ça va dépendre. Dans les dossiers d'arbitrage, par exemple, ça peut être public. Également, à la fin, lorsqu'il y a une entente, les parties peuvent décider de faire homologuer leur entente. Ce que ça veut dire, homologuer, c'est de demander au greffe du tribunal de faire en sorte que l'entente devienne, ait la force exécutoire comme un jugement. Donc, ça va avoir l'équivalence là, d'un jugement dans une salle de cours. Donc, ça, c'est des manières où est-ce que ce sera, ça va être public. Sinon, bien, les parties peuvent, oui, effectivement, décider que l'entente va être confidentielle. Puis c'est quelque chose qui peut être très important, puis même qui va être incitatif à choisir les PRD.
Puis, est-ce que c'est toujours possible? Supposons qu'on a déjà commencé ou qu'on est en train de réfléchir à aller devant les tribunaux. Est-ce que c'est là le bon moment pour dire « Ah, finalement, je pense que j'aimerais utiliser un PRD ou aller vers les PRD » ou est-ce que c'est trop tard une fois qu'on a fait une demande devant les tribunaux?
Le bon moment, c'est en tout temps. C'est toujours un bon moment de décider d'aller vers les PRD. Effectivement, l'idéal, c'est dès le début du litige parce que ça permet d'éviter les coûts qui peuvent s'accumuler. Également, ça peut permettre de régler le litige plus rapidement. C'est une obligation maintenant, là, avec le nouveau code de procédure civile. Bon, on dit nouveau, mais il est moins nouveau, là, 2016. Mais de considérer les PRD, effectivement, au début des procédures. Sinon, on pourra en parler un peu plus tard, là, mais il y a différents domaines de droit où est-ce qu'il y a des obligations aussi. Mais en général, là, je dirais qu'à tout moment, là, même au milieu, quand on voit que finalement on peut s'entendre ou il y a des éléments de niveau, c'est toujours un bon moment d'aller voir les PRD.
Puis si je veux bien comprendre, là, quand on dit l'obligation de considérer, c'est pas en tant que tel que les modes de prévention et de règlement des différends sont obligatoires, non. Mais c'est juste qu'il faut y avoir pensé, c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
Il faut comme avoir réfléchi à la possibilité de négocier exactement. Ou encore d'aller voir un ou une médiateur ou une médiatrice. Puis c'est toujours, sinon, le bon moment de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre avenue que le tribunal qui pourrait mieux répondre pour qu'on règle le conflit?
Absolument.
Super!
Puis... Si je peux juste rajouter, en fait, le tribunal, c'est une autre personne qui va prendre une décision pour nous. Ce qui peut être intéressant avec les PRD, c'est qu'il y a beaucoup de modes où est-ce que c'est les parties elles-mêmes qui vont prendre leur décision. Donc, ils vont reprendre contrôle sur le processus. Et également, pas seulement le processus, mais sur la finalité.
OK, sur la décision un peu. Ils vont la prendre ensemble plutôt que de dire à une autre personne, un ou une juge, trancher à notre place.
Effectivement.
OK. Puis si ça te va, pour le reste de l'épisode, moi, j'aimerais qu'on aborde quatre principaux modes de prévention et de règlement des différends, donc la négociation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage, oui. Un à la fois pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent décider qu'est-ce qui conviendrait le mieux à leur situation s'il y a une de ces options-là qui les intéresse.
Absolument.
Pour commencer, on pourrait parler tout simplement de négociation. Qu'est-ce que c'est?
En fait, la négociation, c'est un processus qui est ultra commun. On s'en rend pas nécessairement compte, mais par exemple, quand on va dans les tout-inclus sur la plage, on peut négocier le prix de ce qu'on veut acheter. On négocie constamment. On peut négocier avec nos enfants. pour les collations, les sorties.
Finis ton repas, tu vas avoir de la crème glacée.
C'est de la négociation. Mais également, on peut négocier quand on a des litiges. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, même les dossiers judiciarisés, qui vont se régler avec la négociation entre les procureurs. Donc, on peut être représenté ou on peut le faire également par nous-mêmes. Moi, je conseille toujours d'être représenté. Évidemment, je pense que ça empêche, ça donne un peu une distance. Puis ça empêche des fois l'accumulation des émotions. Ça peut empêcher le ton de monter quand c'est des litiges qui peuvent être un peu plus prenants.
Donc, si je reprends, ouais. Quand on a un conflit, on peut toujours négocier. Oui. Même si on a pris un avocat, même si oui. On a retenu les services d'une avocate, on peut négocier. Et puis quand on dit un dossier judiciarisé, au final, ce qu'on veut dire, c'est un dossier qui est en processus d'être
Exactement.
Devant le tribunal, c'est ça?
Exactement.
Donc, les processus sont enclenchés,
oui.
Mais on peut encore, en tout temps, négocier.
On peut toujours négocier. En fait, je pense que c'est l'idéal parce que ça permet d'arriver à une entente. Puis, c'est reconnu, là, les dossiers qui se règlent entre les parties elles-mêmes ont un taux de satisfaction qui est beaucoup plus élevé que les dossiers par lesquels il y a un jugement. Même lorsque les jugements sont en notre faveur, le fait que la solution vienne de nous, ça contribue là, à la satisfaction, définitivement.
Donc, supposons qu'on se replace avant les processus. Il n'y a pas d'avocat qui est engagé, ouais. Il n'y a pas de processus. Je n'ai pas pensé encore à aller au tribunal. Comment est-ce que je pourrais approcher la personne qui est impliquée dans le conflit pour dire « j'aimerais ça négocier, je pense qu'on n'a pas besoin de se rendre devant les tribunaux, ce n'est pas dans nos intérêts. » Comment est-ce qu'on peut faire ça?
Comme ça.
Tout simplement.
Effectivement. Sinon, une autre bonne manière, ça peut être de faire une offre, de montrer son ouverture. Également, il y a plusieurs techniques pour négocier. Une très bonne technique, je pense, c'est de montrer de l'ouverture à l'autre, de montrer qu'on comprend son point de vue, puis d'expliquer le sien, mais de l'expliquer d'une manière, d'expliquer ses besoins, d'expliquer ses émotions, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans le litige, puis qu'est-ce qui nous tient à cœur. Puis comme ça, l'autre personne va pouvoir également identifier où est-ce qu'elle peut négocier. Puis peut-être qu'on va pouvoir se rencontrer au milieu où est-ce que, pour nous, ce qui est moins important est plus important pour l'autre. Puis on peut arriver à une situation qui est gagnante-gagnante.
Donc, si je comprends bien, c'est pas sous le feu de l'action qu'on négocie. On peut prendre un pas de recul parce que, comme tu dis, il faut savoir ce qu'on veut.
Ouais.
Faut savoir comment qu'on se sent.
Ouais.
Faut déterminer quand même qu'est-ce qu'on attend de l'autre personne. Donc, des fois, c'est peut-être bien de prendre un pas de recul.
Effectivement. Puis... L'idéal, c'est de pas le faire sur le coup de l'émotion. Puis, également, l'idéal, c'est d'être bien préparé. Ça prend beaucoup d'introspection, faire une bonne négociation.
Quand on dit introspection, ça veut dire de savoir ce que nous, on veut, de déterminer nos besoins,
oui.
De se retourner vers nous-mêmes puis de savoir qu'est-ce que je veux retirer de tout ça.
Oui. Effectivement. Puis le terme introspection, c'est effectivement le terme ce que je voulais dire, parce qu'il faut savoir identifier ses besoins internes et ses valeurs. Ce n'est pas toujours nécessairement uniquement factuel ou uniquement des chiffres. Parfois, il va y avoir plus que ça. Par exemple, une vente d'une maison, parfois, ça vient avec une grosse charge qui est émotive, puis ça ne va pas se résoudre uniquement à la valeur marchande de la maison.
Mm.
Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre un pas de recul, de s'asseoir puis de se préparer, puis de déterminer qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qu'on ne veut pas céder, notre marge de manœuvre également, puis qu'est-ce qu'on est prêt à céder, puis d'essayer d'anticiper aussi ce que l'autre personne va vouloir, puis comment est-ce que nous, on peut répondre aux besoins de l'autre personne.
C'est intéressant parce qu'on nomme beaucoup émotions, besoins, puis c'est toutes des choses
ouais.
qui, devant le tribunal, ne sont pas des considérations. Le tribunal ne se prononcera pas sur les émotions, se prononcera sur les conclusions, donc ce qu'on a demandé, est-ce qu'on le donne, est-ce qu'on le donne pas, est-ce qu'on tranche en fonction d'une personne ou de l'autre. Mais ce que ça veut dire, c'est que la négociation, d'une certaine manière, ça ouvre la porte à plus gros que le droit.
Absolument. Puis c'est l'essence même des PRD en général. C'est de laisser la place à l'humain derrière l'humain. Donc, c'est de laisser la place à tout ce qui est non juridique. Puis, toujours en gardant le cadre légal, là, l'ordre public, évidemment, on ne va pas déroger à la loi, mais d'ajouter la composante humaine derrière.
Puis, supposons qu'on se rend compte qu'on aurait besoin d'une aide d'une personne spécialisée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la négociation qui peuvent nous aider, nous accompagner, puis accompagner nous et toutes les personnes impliquées dans le conflit, dans tout ce processus-là?
Absolument. Les avocats, c'est les grands spécialistes de la négociation. Mais également, ça va dépendre du domaine. Par exemple, je retourne à l'achat de la maison, les courtiers immobiliers, ils vont nous aider à négocier. Donc, il peut y avoir certains domaines spécifiques où est-ce qu'il y a des professionnels qui vont pouvoir nous aider. Absolument.
Supposons que nous, on se représente seul. Est-ce que l'autre personne dans la négociation pourrait arriver à dire « Ah, je veux négocier, mais moi, avec mon avocat », et donc on se retrouve face à un avocat pour négocier?
Oui, c'est une possibilité. Ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer du consentement de tout le monde. Donc, tout le monde doit être d'accord avec cette manière de faire. Puis, également, c'est important que l'avocat explique à la partie qui se représente seule qu'elle protège les intérêts de son client à lui. Donc, mm-hmm. si elle a un doute, elle doit aller trouver un conseiller juridique à elle. Donc, ça, c'est important de comprendre.
Donc, si pour une personne qui se représente seule, c'est de se rappeler que l'avocat de l'autre personne, ce n'est pas une personne spécialisée qui aide à la négociation parce qu'elle a un contrat qui le lie à son client et donc qu'elle doit défendre ses intérêts.
Exactement.
C'est pas une personne neutre.
Exactement. Elle n'est pas neutre.
Parfait. Puis, là, on a négocié, on s'est posé des questions, j'ai établi que mes besoins, j'ai entendu les besoins de l'autre personne, puis on arrive à un terrain d'entente. Je me demande, supposons que on a conclu une entente puis qu'elle n'ait pas respecté cette entente-là. L'autre personne décide qu'elle ne respecte pas son par exemple, son bout de l'entente, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer?
Bien, premièrement, je recommande fortement à tout le monde de mettre les ententes par écrit et que les deux parties les signent. C'est excessivement important.
Comme un contrat, un peu.
Exactement, comme un contrat. Pas comme un contrat, un contrat.
Un contrat, ouais. Donc, en bref, la négociation, c'est discuter avec l'autre personne et essayer de trouver une entente. Et idéalement, mettre cette entente-là par écrit, donc l'écrire et la signer.
Exactement.
J'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre solution possible, qui est la médiation.
Oui.
Si je comprends bien, la médiation, c'est comme un peu le cousin de la négociation, parce que ça se ressemble, mais c'est différent.
C'est bien dit. Effectivement. La différence avec la négociation, c'est que la médiation, il va avoir un tiers neutre qui va présider la négociation qui va avoir lieu entre les parties. Le tiers va accompagner les parties, donc il va les aider à identifier leurs besoins, leurs sentiments, puis également ce qui est vraiment important pour eux. Puis il va les aider à communiquer. Donc, il peut intervenir, il peut poser des questions, il peut prendre des personnes en caucus, donc ça veut dire en une à une, là. Puis mm-hmm. également, il peut solliciter des informations.
Donc, les demander aux personnes impliquées ou demander l'information à la personne qui l'a.
Oui, effectivement. C'est sûr que il peut le faire, par exemple, dans la séance de caucus, donc la 1 à 1, pour aider à faire réfléchir, aider à cheminer. Puis par la suite, la personne va pouvoir décider comment est-ce qu'elle veut gérer. Parce qu'au final, comme on dit au début, c'est le processus appartient aux parties. Puis ça, c'est excessivement vrai dans la médiation. Le tiers va être là pour les accompagner.
Puis quand on dit tiers, au final, ce qu'on veut dire, c'est une personne, mais ouais. Qui est-ce qui peut être médiateur ou médiatrice?
En fait, la médiation n'est pas encore un acte protégé. Je n'ai pas encore, elle sera peut-être jamais, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs ordres professionnels qui offrent la formation puis qui offrent l'accréditation. Je pense notamment là, aux travailleurs sociaux, aux ingénieurs, aux psychologues, etc. Et bien entendu, aux avocats.
OK, donc toutes ces personnes-là peuvent être médiateurs ou médiatrices,
oui.
Mais d'une certaine manière, il y a beaucoup de monde, étant donné que ça ne demande pas un titre précis, ça ne demande pas une formation académique, ce n'est pas obligatoire cette formation académique-là pour être médiateur, médiatrice. On pourrait utiliser, par exemple, si c'est un conflit qui implique deux frères et sœurs, ça pourrait être notre mère ou notre père.
Absolument. En fait, la médiation au quotidien, sans s'en rendre compte, que ce soit avec nos enfants ou même avec nos amis quand il y a un litige. Oui.
Donc, l'important, c'est que ce soit une personne neutre.
C'est l'important. C'est une personne où est-ce qu'il n'y aura pas une impression de la part de l'une ou de l'autre des parties qui a un biais. Mm. C'est sûr que quand c'est des litiges, je ne veux pas dire plus sérieux parce que je ne veux pas enlever l'importance aux litiges entre frères et sœurs, mais lorsque c'est des litiges qui ont des impacts plus importants là, sur la vie de quelqu'un, c'est sûr que moi, je recommande d'aller avec une personne qui est accréditée parce qu'elle va avoir la formation qui est nécessaire pour aider à stimuler la prise de conscience de nos besoins, la manière de le partager, l'écoute aussi de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de reformulations qui peuvent être faites pour... Parce que des fois, on peut parler sans entendre dans une conversation. Mm-hmm. Ça, on le voit souvent dans les conflits qui dégénèrent. Puis le médiateur, son rôle, entre autres, va être d'aider les parties à s'écouter puis à entendre ce que l'autre dit.
Puis si on cherche une personne médiatrice, où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'il y a un registre, par exemple, en ligne? Est-ce qu'on peut juste taper « médiateur, médiatrice près de chez nous » puis en mettre ça dans Google? Comment on trouve ça?
Je pense que si on tape « médiateur, médiatrice près de chez nous », on pourrait en trouver, effectivement, parce qu'il y a certaines personnes qui vont le mettre sur leur site Internet, donc ça peut être une bonne manière. Mais oui, il y a des répertoires. Là. Il y a le répertoire des médiateurs civils accrédités, puis également les ordres professionnels en général, là, publient la liste de leurs médiateurs, si je ne me trompe pas.
Puis, de ce que je comprends, le critère principal, autre que l'accréditation puis la formation, parce que c'est super important, c'est que la personne soit neutre. Donc, ouais. Est-ce que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille si, par exemple, une personne dans un conflit propose son avocat comme médiateur, médiatrice? Est-ce que c'est possible, ça?
C'est vraiment pas recommandé dans tous les cas, parce qu'il va toujours avoir un doute. Puis je pense que même s'il n'y a pas conflit d'intérêt là, à l'intérieur de l'avocat pour lui-même, l'une des parties pourrait toujours avoir un certain doute. Mm. Moi, en tout cas, je me sentirais en conflit d'intérêt. Là. C'est absolument pas un mandat que j'accepterais de faire si j'ai déjà représenté une des parties.
Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Il faut que les personnes se sentent en confiance. Puis la relation de confiance avec le médiateur puis ou la médiatrice, c'est vraiment important de ce que je comprends.
Absolument. C'est primordial. Il faut lui faire confiance parce que il faut accepter... Faire de la médiation, dans un certain sens, c'est accepter d'être vulnérable envers une partie avec laquelle on a un litige, puis le faire de manière accompagnée. Donc, il faut avoir confiance en notre accompagnateur.
Puis il faut savoir aussi que la personne médiatrice va aller, comme on a dit, en caucus, donc juste avec l'autre personne du conflit, discuter de ses besoins, de ses émotions, de ce qu'elle veut. Puis ça, il faut comprendre que c'est pas qu'elle prend parti.
Absolument.
Pour l'autre, c'est normal, puis c'est un processus normal de la médiation, de ce que je comprends.
C'est tout à fait.
Fait que pour choisir la personne médiatrice, si je récapitule, c'est intéressant et important d'aller voir s'il y a une accréditation, parce que ça veut dire que la personne, accréditation, c'est au final un gage de sa formation. Ça veut dire que la personne a suivi des cours pour faire de la médiation.
Ouais.
Mais il faut aussi avoir confiance, puis établir un lien de confiance avec cette personne-là, parce qu'au final, on lui confie la tâche d'essayer de nous réconcilier dans ce conflit-là.
Absolument. Puis le meilleur, l'idéal, en fait, ce serait que le médiateur soit choisi par les deux parties. Donc, que les deux parties soient à l'aise avec son profil, puis également qu'il y ait des rencontres de prémédiation avec les deux, puis que les deux, suite à la rencontre de prémédiation, acceptent de faire affaire avec lui puis se sentent à l'aise avec lui.
Parce que là, on parle de certaines étapes du processus de médiation. Ouais. En général, ça ressemble à quoi, un processus de médiation? Supposons qu'on se dit, moi, je suis en conflit avec quelqu'un. La médiation, ça nous intéresse. J'en ai entendu parler au balado de Hoche Légale. Je pense que ça pourrait être intéressant pour nous. On est les deux d'accord. Ouais. La première étape, c'est donc de trouver la personne médiatrice. Mais à partir de là, ça va comment?
Ben, en fait, c'est... que ça va varier. Souvent, on va faire un contrat de processus. Donc, premièrement, il y a l'appel du médiateur où est-ce qu'on va faire une petite rencontre téléphonique. Ensuite, il y a la rencontre de pré-médiation, comme je disais, où que chaque partie individuellement peut rencontrer le médiateur, expliquer sa position, expliquer ses attentes. Puis également, le médiateur va expliquer les règles du jeu, par exemple, la confidentialité, par exemple, le fait que c'est un processus volontaire, etc. Puis par la suite, il y a la séance de médiation qui peut se dérouler là, sur une séance, mais ça peut également se dérouler là, à long terme, sur plusieurs séances, selon les besoins. Puis, par la suite, il va y avoir la phase de conclusion où est-ce que si on réussit à avoir une entente, on la met par écrit. Et finalement, c'est la décision d'homologuer ou pas l'entente. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, lui donner la même force que si c'était un jugement du tribunal. Mais ce processus-là, c'est le processus dit standard. Mais évidemment, ça peut changer d'une manière ou d'une autre en fonction là, des attentes là, puis des besoins des parties.
Donc, si on reprend ça, une étape à la fois, l'appel du médiateur ou de la médiatrice, à quoi on peut s'attendre lors de cet appel-là?
On peut s'attendre... En fait, c'est l'occasion idéale de poser des questions, de se renseigner, par exemple, sur le curriculum vitae du médiateur, ses expériences...
Son CV.
Oui, mais c'est important pour créer le lien de confiance. Mm-hmm. Mais également, faut pas négliger l'intuition dans ces processus-là. Donc, c'est un premier contact où est-ce qu'on entend la voix, on peut se faire une première impression. Donc, ça peut donner déjà un certain niveau d'aisance ou pas. Donc, c'est généralement assez court. C'est plus une courte présentation où est-ce qu'on fixe un rendez-vous, mais ça reste que c'est très important.
Puis, est-ce que c'est un appel pour chaque personne impliquée dans le conflit ou on fait l'appel ensemble?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que dans le meilleur de tous les mondes, ça serait l'appel ensemble, mais en même temps, si les parties ont de la misère à communiquer, ça peut être un appel par personne. Moi, je dirais que dans mon expérience, c'est un appel différent par personne. Mais évidemment, là, si un jour je recevais un appel avec les deux parties sur la ligne, je me dirais qu'on est bien parti. Je serais contente.
Donc, normalement, c'est un par personne. Les deux sont séparés. Puis, à la rencontre de prémédiation, qu'on parlait, qui était la prochaine étape, à quoi on peut s'attendre à ce moment-là? Parce que là, de ce que je comprends, c'est la présentation, l'appel du ou de la médiateur ou de médiatrice.
Effectivement, la rencontre de prémédiation, puis elle n'est pas faite dans tous les cas, ça va dépendre. Mais quand il y a une rencontre de prémédiation, ça va être une rencontre où est-ce qu'on est en seul à seul avec le médiateur qui va nous expliquer un peu les règles du jeu, puis également qui va convenir avec nous d'une entente sur le processus. On peut même des fois le faire un sport, je ne veux pas dire contrat, là, mais ouais, une entente sur le processus, sur comment est-ce qu'on veut que ça se déroule. Puis également, la personne va pouvoir expliquer au médiateur ses attentes pour l'issue. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait obtenir? Qu'est-ce qu'elle est prête à céder ou pas?
Comme solution.
Exactement.
En ce moment, j'entrevois, je vois que ce serait telle solution que j'accepterais, mais j'accepterais jamais ça.
Exactement.
OK.
Puis, c'est aussi une bonne occasion pour le médiateur de rassurer la personne, de répondre à ses questions, de s'assurer qu'elle ait toutes les informations en sa possession pour arriver à l'aise à la rencontre de médiation.
Quand on dit « expliquer les règles du jeu », c'est quoi exactement les règles de jeu-là de la médiation?
En fait, c'est le médiateur qui va les établir avec les parties, mais ça peut être aussi simple que ne pas couper la parole, laisser l'autre personne parler, arriver avec une ouverture d'esprit. Donc, quand on arrive dans un processus de médiation, évidemment, c'est dans une optique de régler puis d'avoir une solution au litige. Donc, c'est pas de garder 100% de tous les gains et de ne rien donner.
On peut pas rentrer dans un processus de médiation en disant « moi, je veux gagner puis que l'autre perde ».
Exactement. Exactement. Ben, en fait, ça va être le rôle du médiateur de venir chercher pourquoi est-ce que la personne a cette attitude-là. Mais effectivement, ça va nuire là, au règlement du litige, puis ça peut même empêcher là, qu'il y ait un règlement. Effectivement, c'est pas l'objectif, c'est un processus qui est volontaire. Donc, si on n'a pas l'intention de régler, on n'est pas obligé de faire la médiation.
Puis là, après la rencontre de prémédiation, on passe maintenant, si je me rappelle bien, à la médiation en tant que telle. Le processus de rencontre des deux personnes, est-ce qu'ils doivent se rencontrer ou est-ce que la médiation, ça peut se faire à distance parce qu'une personne ne veut pas parler à l'autre, mais elle ne veut pas aller devant les tribunaux, par exemple? Ce serait plus difficile.
Bien, j'ai déjà entendu un cas où est-ce que ça s'était fait.
Mais généralement...
Bien, généralement, c'est mieux que les parties soient ensemble. Ça, c'est définitif. Parce que, justement, la communication passe mieux. Ça peut se faire par les visioconférences ou ça peut se faire en présentiel. L'objectif, c'est que les parties se parlent puis puissent entendre l'autre puis se comprennent elles-mêmes. En fait, le médiateur, c'est un outil pour aider les parties à mieux s'entendre, à mieux communiquer puis à identifier leurs besoins, le besoin de l'autre. Donc, oui, l'idéal, c'est que les parties soient ensemble. Mais après ça, il pourrait y avoir quelques exceptions. Par exemple, dans des dossiers là, où est-ce qu'il y a eu un acte criminel qui a été commis, si une des deux est une victime puis qu'elle a vécu un traumatisme important puis que le fait d'être dans la même pièce que son agresseur serait trop exigeant. J'ai déjà entendu là, d'un dossier où est-ce qu'effectivement, ils étaient dans deux pièces séparées puis le médiateur faisait la navette là, entre les deux.
OK, donc un peu comme les rencontres un à un, exact. Mais tout le long de la médiation.
Exactement. C'est pas moi personnellement qui l'avais fait, là, mais...
Mais ça peut arriver. Mais ouais. Idéalement, il faut que les gens puissent s'entendre parce que c'est un processus idéal. Où on essaye de trouver une entente.
Ben oui, absolument. Le médiateur qui fait la navette, c'est une exception, puis c'est pas... Ouais.
Puis je me demandais, parce que là, suite à la rencontre de médiation... À la fin, quand est-ce qu'on sait qu'on a trouvé une entente, on a établi qu'on était les deux d'accord pour quelque chose, qu'est-ce qui se passe?
C'est une bonne question. En fait, oui, il faut venir à une entente, donc il faut qu'on soit d'accord. Mais après ça, il ne faut pas négliger la mise en application de l'entente. Donc, il ne faut pas oublier également de se donner des barèmes sur comment est-ce qu'on veut que l'entente soit appliquée. Par exemple, s'il y a une somme d'argent qui doit être donnée, il faut dire quand... ou en quel versement, de quelle manière, et aussi le mode de transfert de l'argent. Mais ça, c'est dans les dossiers qui sont pécuniaires. Mais par exemple, dans des dossiers...
Qui impliquent de l'argent, donc.
Oui, effectivement. Mais par exemple, il peut y avoir plein d'autres dossiers au niveau du harcèlement au travail. Si on veut qu'une personne cesse de nous importuner, mais qu'on n'est pas contre l'idée de lui parler, par exemple, ça peut être, bon, mais si on se croise, on peut se dire « salut ». Mais je veux pas que tu me demandes comment se passe ma fin de semaine.
C'est vraiment aux personnes de choisir puis de voir est-ce que tu es capable d'accepter que cette solution-là, non, on développe. Vraiment, il y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut avoir comme solution au final si tout le monde est d'accord.
Absolument, il y en a pas. Ben la seule limite en fait, c'est la loi. Il faut s'assurer de respecter la loi.
Ouais, on peut pas commettre des crimes puis dire on s'est entendu en médiation.
En médiation. Effectivement, c'est pas une défense. Mais non, puis c'est ça qui est très beau avec ce mode-là, c'est qu'il y en a pas de limite. Puis je veux vraiment inciter pas oublier de l'appliquer. Pas juste on se parle moins, comment est-ce qu'on se parle? Mm-hmm. Par exemple, pour revenir sur mon exemple d'harcèlement au travail.
Puis par exemple, on a trouvé une entente, on a trouvé une solution, mais quelqu'un la respecte pas.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de recommencer tout le processus du début puis que ça vaut plus rien ce qu'on a fait?
Non. Non. En fait, l'entente qu'on a en médiation, c'est un contrat. Donc, ça va avoir la même force qu'un contrat. C'est pour ça, comme je disais un petit peu plus tôt, c'était important de la signer, mais quand on est avec un médiateur, il va s'assurer que ce soit fait, ou en tout cas, il va le proposer, puis les parties verront là, si elles désirent signer ou pas. Mais non, effectivement, là, un contrat verbal, c'est un contrat.
Donc, on suggère que ce soit écrit.
Ouais.
Puis ça coûte combien? Ça, c'est la question, parce que c'est une question de coût, des fois. Eh bien, souvent, est-ce qu'on veut aller devant le tribunal? Ouais. Est-ce que ça peut coûter moins cher d'aller en médiation parce qu'il faut payer une personne médiatrice?
C'est moins cher aller en médiation pour plusieurs raisons. Premièrement, le coût du médiateur va être partagé entre les parties. Après ça, ça dépend s'il y a des grosses disparités financières. Parfois, il y a une partie qui peut décider de l'assumer entièrement ou d'assumer une plus grande proportion. Ça, c'est vraiment libre à chaque personne. Mais on pourrait s'entendre pour dire 50-50. Donc, au lieu d'assumer les frais d'un professionnel par personne, si on décide d'être représenté là, devant le tribunal, effectivement, on a un professionnel pour deux.
Donc, plutôt que chacune des personnes payer un avocat ou une avocate, on se retrouve à séparer le coût que ça coûte de payer une personne médiatrice.
Oui.
Puis, pour un processus de médiation, puis là, c'est sûr, ça dépend de chaque médiateur, chaque médiatrice, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de coûts? Est-ce qu'il y a une possibilité de nous donner une idée ou c'est vraiment variable?
Non, c'est vraiment variable, malheureusement. Souvent, ça va être le taux horaire du professionnel. Il y en a certains qui vont pouvoir faire des forfaits, mais je ne peux pas répondre.
C'est possible de demander à la personne médiatrice au départ.
Absolument, absolument. Puis également, en expliquant notre litige, on peut demander une estimation. Ce sera rarement exact parce que c'est...
C'est sûr. Ça dépend jusqu'à quand on veut se rendre pour essayer de trouver une solution du temps qui
passe. On peut aussi donner une limite. On peut dire, moi, je suis prête à payer pour 10 heures de temps. Passer 10 heures, je souhaite mettre fin à la médiation. C'est quelque chose aussi qui peut être fait puis qui permet de contrôler notre budget. Donc, absolument.
Puis je crois savoir qu'il y a des services gratuits de médiation citoyenne, il me semble, qui sont offerts par des organismes comme Equijustice et la SEJAC. Donc, ça peut être aussi une option d'aller rechercher des services peut-être qui vont être différents, mais qui vont être quand même de médiation puis qui vont offrir faire une offre gratuite. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Si je comprends bien, au final, c'est chaque personne, toutes les personnes impliquées dans le litige qui doivent s'entendre, mais qui peuvent poser leurs limites, autant sur les coûts que sur la durée, que sur les solutions qui sont prêtes à accepter.
Oui, absolument.
Puis est-ce qu'il y a des exceptions? On parlait tout à l'heure possiblement d'exceptions où la médiation serait obligatoire.
Oui, aux petites créances pour les litiges de moins de 5 000 c'est obligatoire de recourir à la médiation. Puis également en matière familiale, quand il y a des enfants à charge, c'est obligatoire de faire une séance d'information sur la coparentalité et la médiation. Donc, pas nécessairement de participer à la médiation, mais c'est obligatoire de suivre cette séance-là d'information. Puis, il va y avoir le 5 heures de médiation qui vont être payées par le gouvernement en litige familial s'il y a des enfants à charge. S'il n'y a pas d'enfants à charge, c'est 3 heures. Puis, si c'est pour une révision d'une entente qu'on avait déjà eue, c'est 2,5 heures.
Mais dans ces situations-là où la médiation est obligatoire,
ouais.
Il y a quelqu'un qui va informer les personnes au conflit dans leur processus à aller devant le tribunal que la médiation est obligatoire.
Oui.
Donc, si on ne nous en informe pas,
c'est qu'on a le choix.
C'est que c'est le choix, puis qu'on peut se poser la question, donc.
Effectivement, et je recommande de poser la question.
Donc, si je récapitule, au final, la médiation, c'est recevoir les conseils d'une personne qui est neutre, en qui on a confiance, pour permettre de guider la recherche d'une solution. Le médiateur ou la médiatrice ne choisira pas à notre place.
Non, absolument pas.
On parlerait maintenant de la conciliation,
oui.
Qui, elle, ressemble un peu à la médiation. Donc, la
c'est
médiation
similaire.
Ressemble à la négociation, qui ressemble à la conciliation. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider à voir un petit peu plus clair dans tout ça?
Oui, effectivement, la conciliation, en fait, le tiers neutre, il va être un peu moins actif que dans la médiation. Donc, il va avoir le même rôle de facilitateur. C'est pour ça que c'est très semblable. Par contre, il va avoir moins tendance là, à venir... questionner les parties, les aider à se remettre en question, ça va être un peu plus une personne qui va être passive dans le processus.
OK, donc, si on se replace la négociation, il y avait possiblement personne avec nous, c'était juste les personnes impliquées qui se parlaient, qui
oui.
se négociaient, peut-être avec des avocats. La médiation, on avait une personne qui nous guidait dans la recherche d'une solution. Puis là, on est en conciliation, donc il y a une personne qui est là, mais... elle a un rôle moins actif. Donc, elle est
exact.
Moins dans le fait de guider. C'est quoi son rôle au conciliateur?
Son rôle, ça va être de faciliter la communication. Donc, ça va être d'inciter les gens à se parler, à s'écouter, mais sans, par exemple, avoir un rôle qui est plus interventionniste, pas nécessairement faire des caucus durant la séance où est-ce qu'on va être en une à une. C'est plus offrir une table où est-ce que les gens vont s'asseoir avec l'intention de discuter. Je veux juste préciser que dans la médiation et dans la conciliation aussi, c'est possible d'être représenté par avocat. On n'est pas obligé d'y aller seul, c'est une possibilité, effectivement, mais tout comme la négociation, on peut avoir un avocat si on veut pour nous accompagner.
OK. Puis, donc, dans ces trois possibilités-là, on peut toujours être accompagné par
oui.
une personne avocate, mais dans le cas de la conciliation, juste pour être certaine, le conciliateur, au final, il propose pas de piste de solution. Il fait juste s'assurer que la conversation reste à un niveau où on va pouvoir en trouver une solution, c'est ça?
Effectivement.
OK. C'est de faciliter, donc comme on disait, un rôle de facilitateur, donc de faciliter la communication et la négociation.
Oui, oui, c'est ça. En fait, dans la médiation, il va aussi avoir des médiateurs. Il y a plusieurs méthodes de faire, là. C'est pas très rigide, justement. C'est le côté même là, des PRD, c'est qu'on peut le moduler comme on le souhaite, comme c'est pertinent pour nous. Il y a des médiateurs qui voudront pas offrir des solutions aux parties, mais qui vont amener les parties par des questions et par des séances là, en seul à seul à venir à des solutions.
À trouver elle-même la solution.
Exactement. Donc, ça, en médiation aussi, il y a beaucoup de médiateurs qui ne vont pas offrir de solution aux parties, qui vont les laisser parce que ça va être plus satisfaisant si la solution vient d'elle-même. Donc, la différence avec la conciliation, c'est pas nécessairement ne pas offrir de piste de solution, c'est plutôt de laisser les parties communiquer sans intervenir autant.
OK. Sans qu'il y ait de caucus, donc un à un, sans qu'il y ait de discussion, possiblement
exactement, aussi. Mais d'un niveau un peu plus éloigné, peut-être moins aller chercher les émotions, les besoins. Ah, j'entends ça, est-ce que ça pourrait vouloir dire que X, Y, Z? Ça, c'est quelque chose, un type de phrase là, qu'on va voir beaucoup en médiation, pas tellement en conciliation.
OK. Puis qui peut être conciliateur, conciliatrice?
En fait, ça peut être, c'est très large, donc ça peut être un peu comme la médiation, c'est pas un titre qui est protégé, mais par contre, on voit aussi qu'il va y avoir des juges qui vont faire des conférences de règlement à l'amiable, qui est un beau mélange entre la médiation et la conciliation. Donc ça, c'est l'avantage. Ça peut également être
ça pourrait être des gens du milieu de la justice.
Mais également, ça peut être au travail, par exemple, un responsable des ressources humaines qui pourrait venir faire de la conciliation entre un employeur et un employé.
Supposons qu'on a une personne qui est responsable de notre syndicat et puis qu'on a un conflit avec quelqu'un dans notre syndicat. Oui. Ça pourrait être des deux personnes employées ou dans une assemblée de copropriétaires, donc tout le monde qui a des... une même habitation, une copropriété, ça pourrait être ça. Tout le monde, au final, pourrait être conciliateur, étant donné que c'est pas protégé comme titre. Est-ce que, encore là, le rôle de la confiance est super important, comme pour la médiation?
Absolument. Il faut avoir confiance en la personne avec qui on fait affaire. En fait, on se livre à cette personne-là. Comme je dis un petit peu plus tôt, on devient vulnérable, on partage une partie importante de notre vie. Puis également, on va partager nos émotions, on va partager nos valeurs, puis on va être dans une position où est-ce qu'on recherche de l'aide pour nous accompagner à travers tout ça. Comme autant qu'on a besoin d'un lien de confiance avec un psychologue, c'est un peu moins élevé comme besoin lorsqu'on est en conciliation, mais ça reste que, oui, il faut avoir confiance en ses compétences, puis avoir également confiance en la manière dont elle va intervenir, puis à la manière dont elle va nous guider pour régler notre litige.
Puis on a parlé de conférences de règlement à l'amiable. Oui. Puis on a dit que des juges pouvaient être conciliateurs.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que moi, je pourrais aller voir au palais de justice, demander à un juge, « Ah, j'aimerais ça que quelqu'un me fasse une conciliation. J'ai un gros conflit, puis on est les deux d'accord qu'on voudrait que ce soit un juge. »
Non. Il faut avoir un litige qui est déjà débuté. Donc, il faut que ce soit judiciarisé. Donc, il faut avoir un litige en cour civile qui est déjà débuté. Puis, à ce moment-là, on a l'opportunité de le demander, où ça peut même être suggéré par un juge d'avoir une séance de facilitation, conférence de règlement à l'amiable avec un juge. Donc, ça va suspendre l'audience en quelque sorte. Puis, on va pouvoir procéder là, à cette séance-là avec les juges. Le taux de succès est excessivement élevé. Moi, en tout cas, pour en avoir participé, les parties sont souvent très satisfaites. Le fait aussi que ce soit un juge, ça donne un haut lien de confiance. Également, c'est des gens qui savent qui connaissent très bien là, le domaine dans lequel il y a le litige, donc ils peuvent aussi parler avec leur expérience. C'est très pertinent comme recours.
Donc, si je comprends bien, il faut avoir fait le dépôt de sa demande, être allé au tribunal, avoir ouvert un dossier, faire le dépôt de la demande, commencer le processus pour finalement un jour peut-être se retrouver devant le tribunal.
Oui.
Puis à un moment dans ce processus-là, on peut dire qu'on est ouvert à une conférence de règlement à l'amiable.
Absolument.
En cochant, par exemple, dans un formulaire.
C'est un formulaire.
Ah, voilà, c'est un formulaire, donc. Il faut cocher. Puis le tribunal va nous avertir qu'on a une date, une heure pour une conférence de règlement à l'amiable.
Oui, effectivement. On donne nos disponibilités, puis on va recevoir une date éventuellement, puis c'est à ce moment-là.
Puis là, le juge qui va être devant nous pour cette conférence de règlement à l'amiable, est-ce que c'est le même juge qui va nous entendre? Parce que supposons qu'on veut dire quelque chose, mais que ça parle de plus de nos émotions, que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aurait dit au tribunal.
Non, non, ce ne sera pas le même juge, justement pour rassurer les parties que l'information qui va être dite va demeurer confidentielle. D'ailleurs, il y a une entente de confidentialité qui doit être signée avant. Donc, c'est très important. Tout ce qui est dit dans cette séance-là ne peut pas être utilisé par la suite au procès si finalement il n'y a pas d'entente et que les procédures continuent. Puis non, ce ne sera pas le même juge là, qui va entendre le procès.
Donc, même si je dis dans une conférence de règlement à l'amiable, par exemple, que « Ah, j'accepterais telle solution », et qu'au procès, je dis non, cette solution-là, je ne la veux plus, on est rendu au procès, je veux d'autres choses, ça ne peut pas se retourner contre moi.
Non, exactement. En contre-interrogatoire, on ne pourra pas se faire dire « Ah, oh, mais pourtant, dans la conférence de règlement à l'amiable, vous disiez non, c'est illégal.
» Parfait. Puis le juge ou la juge qui est dans une conférence de règlement à l'amiable, est-ce que son rôle, c'est aussi de trancher le litige? Est-ce que c'est de trouver, de trancher, puis de choisir comme un peu on s'y attend quand on va au tribunal? C'est quoi son rôle?
Non, absolument pas. Son rôle n'est pas de se substituer là, au juge qui va entendre l'affaire. Donc, son rôle, c'est d'accompagner les parties, d'utiliser son expérience pour ce faire, puis de faciliter la communication. On parle beaucoup de facilitation, mais c'est tellement ça, d'aider les parties à arriver à une entente. Donc, non, le juge ne peut pas rendre jugement, effectivement.
Donc, le juge garde son titre de juge, évidemment, mais il agit comme une personne conciliatrice.
Exactement.
Pas comme un juge.
Exactement.
OK. Puis, après qu'on ait fait une conférence de règlement à l'amiable, supposons qu'on n'ait pas arrivé à une solution, on a quand même le droit d'avoir le procès, d'aller devant le tribunal.
Oui, oui, tout à fait. Ça n'empêche en rien.
OK. Puis ça peut ressembler à quoi, les coûts, cette fois-ci? C'est-tu aussi variable? Est-ce qu'il y a des services qui sont gratuits de conciliation?
En fait, c'est la même chose pour la conciliation. Ça va être le frais, les honoraires du professionnel. Dans le cas de la conférence de règlement à l'amiable, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de frais supplémentaires pour ça. Mais non, sinon, si on fait affaire avec un professionnel, c'est son taux horaire ou son forfait.
Donc, puis la conciliation, je crois aussi dans les tribunaux, puis les tribunaux administratifs ou tout ce qui est organisme gouvernemental est gratuite, là. Donc, je crois pas, je crois qu'il n'y a pas de frais dans ces situations-là. Mais si on décide d'aller avec un conciliateur ou une conciliatrice qui vient d'ailleurs, bien là, dans ce cas-là, comme vous dites, ça pourrait être, comme tu dis, pardon, ça pourrait être vraiment différent, puis ça pourrait, les frais pourraient varier.
Effectivement.
Donc, je m'essaye à une récapitulation. La conciliation, donc, ce serait de recevoir l'aide d'une personne qui va faciliter la communication.
Oui.
Et permettre qu'il y ait une négociation, donc qu'on puisse discuter pour trouver une solution.
C'est exactement ça.
Donc, on passe à la dernière des quatre options qu'on aborde dans cet épisode.
Oui.
C'est l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que c'est l'arbitrage?
En fait, l'arbitrage, c'est le mode de PRD où est-ce que les parties vont déférer à une autre personne la responsabilité de prendre la décision. Donc, la différence avec un procès, les procédures judiciaires, c'est que ça va être beaucoup plus souple. On peut également, dans certains domaines, là, dans certains cas, s'entendre sur la confidentialité du processus, mais ça demeure, à l'instar des procédures judiciaires, une décision qui va être finale et exécutoire. Donc, on demande à une autre personne, selon des procédures qu'on peut établir à l'avance, puis qu'on peut également s'approprier, dépendamment là, si on est dans un domaine de droit qui nous permet de décider la manière où est-ce avec laquelle on va présenter notre preuve, puis demander à un tiers impartial de prendre décision pour régler le litige. On peut penser, là, par exemple, à l'émission Les Justicières là, sur Nouveau ou auparavant là, à l'émission L'Arbitre.
OK. Donc, si je comprends bien, si on reprend... l'arbitrage, c'est donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de choisir et de trouver une solution à notre place.
Oui.
C'est de dire, OK, on n'arrive pas à s'entendre ou ça ne nous intéresse pas d'essayer de trouver un compromis, on veut que quelqu'un d'autre choisisse.
Ouais.
Un peu comme le juge le ferait.
Exactement, exactement.
Okay. Mais la différence, puis là, tu nous as nommé certaines différences, c'est donc que le juge... Est-ce qu'on peut revenir un peu, peut-être une à la fois, les différences entre l'intérêt d'aller devant le tribunal versus l'intérêt de faire un processus d'arbitrage?
Oui, bien, en fait, premièrement, les délais, ça peut être beaucoup plus court en séance d'arbitrage. Également, les coûts, vu que c'est plus court, et également que la procédure, elle est moins complexe, ça peut revenir moins cher. Puis également... Il y a certains domaines là, où est-ce que l'arbitrage est plus contrôlé, mais par exemple, on pourrait demander à une personne qu'on connaît là, de trancher un litige, puis ça serait une forme d'arbitrage qui ne serait pas nécessairement selon la forme d'arbitrage qu'on s'imagine, là, qui est un petit peu plus formelle, mais on pourrait procéder de cette manière-là. Puis c'est un peu pour ça que je donnais l'exemple là, de l'émission Les Justicières, où est-ce que c'est une forme où est-ce que les gens vont décider, OK, bien, ce modèle-là me convient, je vais faire affaire avec...
L'équipe de tournage.
pour trancher mon débat. Donc, c'est une très bonne manière. Ça donne beaucoup de souplesse puis de latitude à la procédure. Donc, c'est la différence avec le processus judiciaire.
Donc, encore une fois, c'est les deux personnes ou toutes les personnes impliquées dans le conflit qui doivent choisir ensemble une personne qui va être arbitre. Il n'y a pas vraiment de formation obligatoire pour être arbitre. Donc, encore là, la confiance doit être vraiment au centre du choix de la personne arbitre, parce qu'on doit avoir confiance qu'elle va trancher. Elle est neutre, puis elle va trancher en fonction de ce qu'elle croit qui est juste.
C'est ça. Mais en fait, ça va dépendre des domaines. Il y a des domaines où est-ce que ça va être beaucoup plus réglementé que d'autres, par exemple, avec les ordres professionnels. Aussi, l'arbitre, dans ces situations-là, ça va être une personne qui a une expertise dans le domaine qui va devoir être tranchée. Donc, il y a des domaines où est-ce qu'il va y avoir une procédure qui va être préétablie puis que oui, on va s'attendre à une certaine formation de la part de l'arbitre. Il y a également des accréditations qu'on peut obtenir en arbitrage. Donc, c'est pas toujours possible de le faire de cette manière-là, mais c'était en fait, mon exemple, c'était pour l'extrapoler, pour dire... si je suis pas d'accord avec mon voisin, la manière que sa clôture dépasse sur ce que je considère être mon terrain, je pourrais demander à mon voisin d'en face de trancher.
Mais le mieux, ce serait demander à quelqu'un qui a des connaissances sur la délimitation des terrains.
Absolument. Mais tu sais, c'était pour dire que ça peut être utilisé. On peut l'adapter à notre façon, à comment est-ce que nous, on veut que ce soit fait, mais c'est pas possible là, dans tous les domaines. Il y a certains... là. Certains champs où est-ce que ça doit être fait d'une certaine manière, là, que c'est prescrit.
Donc, étant donné que la personne va trancher le conflit à notre place, choisir la solution, c'est vraiment intéressant d'aller chercher quelqu'un qui est expert ou qui a une connaissance sur le sujet du conflit. Donc, si on a un conflit de la construction ou un conflit avec un bâtiment, on pourrait aller voir une personne architecte ou une personne ingénieure.
Absolument. Ça va donner de la légitimité à la personne dans sa décision. Puis également, ça va donner un lien de confiance. Donc, ça va permettre de rationaliser puis d'accepter la décision, même si elle n'est pas dans notre faveur, en se disant, bon, bien, au moins, c'est quelqu'un qui connaît réellement ça qui a pris la décision.
Puis dans les autres modes de prévention et de règlement des différends, comme la médiation, la conciliation, on parlait beaucoup de l'émotion, de comment on sent. Est-ce que tout ça, ça a encore sa place dans l'arbitrage?
Bonne question. J'aurais tendance à dire que ça va dépendre. Ça va dépendre effectivement de l'arbitre. Ça va également dépendre est-ce que la procédure mise en place le permet. Je suis d'avis que oui, même dans les tribunaux judiciaires, là, les émotions sont... Les juges entendent, les juges, c'est des humains également. C'est sûr, les émotions ont sa place dans toutes les formes de règlements différents.
On n'est pas des robots.
Puis, donc, oui, évidemment, mais est-ce que ça va avoir une place aussi grande comme, par exemple, la médiation? Ça va être la pierre angulaire de la médiation, va être l'identification des besoins. Exactement, ça va être ce qui va primer puis ce qui va... diriger le processus. Donc, après ça, pour l'arbitre, j'aurais tendance à dire que non. Mais effectivement, là, comme dans tout, ça va compter.
Puis ça ressemble à quoi, de l'arbitrage? Est-ce que ça ressemble à un vrai procès ou à ce qu'on pourrait avoir quand on va au tribunal?
C'est ce qui s'y ressemble le plus, effectivement. Il va y avoir certains milieux où est-ce que ça va être beaucoup plus procédural, où est-ce qu'il va y avoir une manière de présenter sa preuve, où est-ce qu'il va y avoir des règles préétablies sur, par exemple, partie demanderesse parle en premier, fait sa preuve en premier, interrogatoire suivi du contre-interrogatoire, etc. Mais, comme je disais, ça peut vraiment s'adapter à toutes sortes de manières. C'est une forme d'arbitrage. Ça pourrait être, par exemple, un litige entre employés, puis l'employeur tranche. C'est informel, mais ça pourrait être vu comme une forme d'arbitrage.
Donc, dès le moment où on décide de confier le pouvoir de choisir la solution à quelqu'un d'autre, autre qu'un un juge dans un tribunal, ça pourrait s'apparenter ou ça pourrait ressembler à de l'arbitrage.
Exactement.
Puis, est-ce que j'aimerais préciser pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment qu'il y a des cas d'exception où l'arbitrage n'est pas possible. Par exemple, en matière familiale, donc tout ce qui est divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, mais aussi en matière de régime de protection, donc curatelle, tutelle. Et finalement, rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui sont souvent consommateurs, consommatrices, qu'une clause obligatoire d'arbitrage n'est pas possible entre un consommateur et un commerçant. C'est donc de dire que si quelqu'un de chez qui vous avez acheté votre un item, par exemple une télévision, si Walmart, pour pas le nommer, se retrouve à vous dire il y a une clause obligatoire d'arbitrage, nous, on oblige ça, vous n'êtes pas obligé à titre de consommateur. Donc, c'est les cas d'exception où l'arbitrage n'est pas possible. Par contre, si on revient un peu, là, parce qu'on a beaucoup parlé de modes de prévention et de règlement des différends, évidemment, et que là, ça tourbillonne peut-être un peu, est-ce que ce serait possible pour toi, Marianne, de nous expliquer peut-être en un ou deux mots, ou nous rappeler en un ou deux mots chacun des modes de prévention et de règlement des différends qu'on a abordés?
Oui, absolument. La négociation, ça va être le processus où est-ce que les parties vont parler entre elles directement ou par la voix d'un représentant pour arriver à une solution. Donc, il peut y avoir différentes stratégies, différents processus, mais ça va être vraiment un dialogue direct. Ensuite, la médiation, c'est un dialogue, mais qui est accompagné par un tiers impartial qui va aider les parties à identifier leurs besoins, leurs intérêts, leurs valeurs premières, qu'est-ce qui est important pour eux dans le conflit, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir à la suite de celui-ci, puis qu'est-ce qu'elles peuvent léguer. Par la suite, la conciliation, ça va ressembler, mais ça va être avec un tiers qui va être moins interventionniste, qui va laisser plus de place là, aux parties pour elles-mêmes, je veux dire s'auto-gérer, mais c'est pas...
Se diriger vers une solution,
effectivement. Puis par la suite, l'arbitrage, c'est où est-ce qu'on délègue à une tierce personne la décision qui va trancher le litige, donc la manière où est-ce qu'on va résoudre notre conflit.
Donc, ce qui les rassemble aussi, ce serait la fluidité, la flexibilité, la possibilité de choisir comment on se rend à une solution.
Absolument, absolument. C'est, en fait, c'est ce qui ressort de l'EPRD, c'est la satisfaction à l'égard du processus. C'est l'importance qui est mise sur la trajectoire pour régler son conflit. Quand on a l'impression que le processus a été équitable, puis qu'on a été entendu, peu importe la finalité, ça augmente le niveau de satisfaction nécessairement. Donc, c'est l'essence même des EPRD.
Merci beaucoup, Marianne. Ensemble, on a fait vraiment un bon bout de chemin. On a parti des débuts d'un conflit jusqu'à un règlement commun, possiblement une solution, en laissant dans les mains des personnes impliquées la résolution de ce conflit-là. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont à une étape ou à une autre de ce processus, qui se posent la question sur les modes de prévention et de règlement des différends, j'espère que vous ressortez de cet épisode plus outillé, en vous sentant un peu moins seul. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous rappelle qu'on est ensemble à la cour. Pour plus d'informations et des ressources d'aide, on vous donne rendez-vous sur le site web d'Hoche Légale, donc hochelégale.ca, et sur la page Instagram et Facebook de l'organisme. Je suis Camille Lavoir en cours et je vous souhaite une belle journée.